On dit à Simon, plutôt dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Mais au verset 34, Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Et on connaît la suite, OK? Que lorsque Pierre a été confronté, il s'est retrouvé, lorsque le coq a chanté, finalement, il s'est retrouvé que là, oui, à trois reprises, il avait renié le nom de Jésus. La Bible nous dit que lorsqu'il a croisé le regard de Jésus, lorsqu'il a vu Jésus, la Bible nous dit que Pierre a pleuré amèrement, profondément. Parce que c'était un endroit dans sa vie où il n'avait jamais imaginé se rendre. C'était cet endroit-là de confusion totale, de reniement à lui-même d'une certaine façon, et même de ne pas avoir pu même tenir sa parole, une place où on réalise que, oh, peut-être je ne me connais pas autant que je pensais. Et c'est là au début où ce que Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et on a mentionné quoi? On a mentionné que c'est cette étape-là de criblage où on tente à travers le tamis d'enlever l'enveloppe qui recouvre le grain de blé. Et de la même manière, notre ennemi, Satan, le diable qui rôde, de cette même manière, tente à nous ébranler, tente de nous ébranler pour essayer, si possible, d'enlever la foi. Cette foi qui nous protège, cette foi, qui nous préserve. Et le chant du coq, cette série-là, c'est quoi? C'est pour nous aider à demeurer fermes. C'est pour nous aider à demeurer fermes dans notre foi. Parce que, mes amis, notre foi sera testée. Est-ce que quelqu'un, sa foi a déjà été testée? Là? OK? C'est ça. Oh, poser la question, c'est y répondre. Peut-être pas au téléphone, mais... Amen. Je pense que c'est un bon moment, okay, pour les autres. Si vous avez un cellulaire, ça serait un bon moment de vérifier. Amen. Merci. Pas de problème. Donc, de poser la question, c'est d'y répondre. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que, écoute, si tu as eu un mois, deux mois, un an dans le Seigneur, les probabilités sont assez fortes que ta foi a déjà été testée, que tu t'es déjà posé des questions, que tu t'es déjà dit, qui ici s'est jamais dit, oui, mais pourquoi? Hein? Seigneur, pourquoi? Le problème, ce n'est pas nécessairement le Seigneur pourquoi. Parce que si on regarde dans la parole de Dieu, écoute, des pourquoi, il y en a eu. Hein? Moïse, oui, mais pourquoi? Pourquoi moi? La question, c'est ce qui suit après. C'est ce qui suit après le pourquoi. C'est où est-ce qu'on décide d'aller chercher la réponse à ce pourquoi? C'est si oui ou non, on va décider de s'ancrer dans la parole de Dieu afin d'éviter d'être trop ébranlé. Amen. Parce que la réalité, c'est que, comme on a vu, notre foi, c'est précieux. La Bible nous dit quoi? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est notre foi, c'est par notre foi qu'on arrive, qu'on entre dans le royaume de Dieu, mais c'est également par cette foi-là que nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne. Et non seulement c'est par cette même foi que nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne, mais c'est par cette même foi que nous sommes appelés à vaincre. Que nous sommes appelés à aller chercher ce que le Seigneur a déjà pourvu pour nous. Et aujourd'hui, si je vous demande ici ce matin, est-ce que vous avez la foi? La grande majorité d'entre vous, probablement, vous allez me dire oui. Hein? Et souvent, il arrive des choses dans nos vies où on se pose cette question-là, oui, mais pourquoi? Et on se dit, oui, mais pourquoi? Pourtant, je croyais avoir la foi. Et Pierre, ici, s'est probablement trouvé dans une situation où, perdu, se demande lui-même, se remet lui-même en question, comment ai-je même pu renier le maître pour qui, quelque temps auparavant, quelques heures à peine auparavant, j'étais prêt à mourir. Peut-être c'est le temps de nous poser la question, de nous interroger maintenant sur l'objet de notre foi. Quel est l'objet de notre foi? Ça signifie quoi, ça? Ça signifie, notre foi est en quoi? OK? On va aller lire en Marc, chapitre 11. On va développer là-dessus ensemble. Marc, chapitre 11, au verset... on va commencer à lire au verset 19, OK? Verset 19, mais quelques versets avant, on parle de quoi? C'est l'épisode du figuier. Donc, Jésus passe devant un arbre, devant un figuier. Il voit que l'arbre ne peut pas porter de fruits. Donc, il maudit le figuier. Et le lendemain, ça nous ramène ici en Marc au verset 19. Donc, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines, donc le figuier qu'ils étaient passés devant la veille. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, donc se rappelle ce que Jésus avait dit au figuier, et constate maintenant ce qui arrive, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » OK? On va lire la suite, mais rappelez-vous ceci. La première chose que Jésus a dit pour répondre à l'étonnement, à la surprise de Pierre, c'est quoi? Ayez foi en Dieu. Et il explique par la suite, ça veut dire quoi? Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, verset 24, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est un passage qui, à la fois, apporte énormément de foi et d'énergie, d'exhortation, mais qui apporte aussi de la confusion. Dans quel sens? Dans le sens où, on va dire la vérité, on ne voit pas toujours l'accomplissement de nos prières. OK? Dans le sens où, on ne voit pas l'accomplissement de nos prières, on lit un tel passage et là, on se pose la question, oui, mais pourquoi? On se dit, pourtant, j'ai la foi. Donc, c'est là qu'on pense qu'il nous manque de foi, qu'on doit avoir plus de foi, qu'on doit aller chercher je ne sais pas quoi, qu'on doit jeûner davantage, qu'on doit lire davantage, qu'on doit prier davantage de manière à avoir plus de foi. Et si j'ai plus de foi, à ce moment-là, je vais être davantage en mesure de me présenter devant Dieu, de prier avec autorité, de voir enfin mes prières s'exaucer, s'accomplir. C'est pas ça que ça nous dit ici. Ça nous dit, ayez foi en Dieu. En Dieu. Et Sarah, Hébreux 11, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Sarah a... Et Sarah, un âge très avancé, amen. Âge très avancé, âge et physiquement parlant, impossible d'avoir des enfants. Mais la promesse de Dieu, c'était quoi? C'était que l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers toi, Sarah aura un enfant. Impossible. Naturellement impossible. Donc, si Sarah fixe les yeux sur la promesse, il y a de quoi s'inquiéter. Mais qu'est-ce que Hébreux 11, 11 nous dit? Hein? Nous dit, qu'elle crut. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Elle n'a pas cru à la promesse telle qu'elle. Elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Parce que comme on a déjà dit, c'est différent de dire, okay, dans un an, tu vas avoir un enfant. Ou si Dieu vient te dire, dans un an, tu vas avoir un enfant. Okay? Est-ce que c'est la même promesse? Oui. Est-ce que c'est la même personne? Non. Okay? Notre foi doit être basée seulement et entièrement en Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est en Christ que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais trop souvent, on fixe nos yeux sur les promesses, sur les circonstances, et on essaye d'une façon ou d'une autre d'avoir accès à ces promesses-là, d'aller chercher ces promesses-là par nos œuvres, par nos prières, par nos lectures ou par je ne sais pas quoi. Mais la Bible dit ici, ayez foi en Dieu. Et c'est probablement une des choses les plus compliquées à faire. Simple, mais compliqué. Compliqué, pourquoi? Compliqué quand je le vois dans la vie de plusieurs personnes. Parce qu'on a l'impression qu'on ne fait rien. Ayez foi en Dieu, ça veut dire quoi ça? Avoir foi en Dieu, ça fait quoi ça? Il faut que je bouge, il faut quand même que je bouge. Il faut quand même que je fasse quelque chose. Mais Jésus a dit quoi? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc cette question de foi, cette question de croire doit être beaucoup plus profonde que des fois on l'imagine. Profonde, mais en même temps plus simple. Je m'explique. Plus simple dans le sens où on n'a pas besoin de faire des pirouettes pour nécessairement avoir plus de foi. Hein? Parce que le problème, c'est peut-être pas la quantité de la foi. Le problème, c'est peut-être, encore une fois, l'objet de notre foi. Tu peux être convaincu à 100% de quelque chose de faux. N'est-ce pas? Mais si tu agis à 100% parce que tu es convaincu à 100% à partir de quelque chose de faux, le résultat que tu vas avoir va être faux. Si tu fais un calcul mathématique, OK? Tu fais un calcul mathématique, tu es devant un examen de mathématiques, tu dois résoudre une équation et tu es sûr et certain que tu dois prendre cette formule-là. Hein, des fois à l'école, c'est ça, on nous disait, bon, ben, étudiez pour votre examen et le professeur nous laissait préparer une feuille. Et sur la feuille, on avait le droit d'écrire les notes qu'on voulait. Dire, une feuille que tu as le droit d'amener à ton examen, écris comme tu veux, donc on écrivait hein, le plus petit possible, OK, pour pouvoir écrire le plus de choses possible sur notre feuille. C'est les notes que tu as le droit d'amener à l'examen. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu écris toutes les formules mathématiques possibles que tu penses avoir besoin pour ton examen. Et là, tu arrives à une question et une des premières choses à faire, c'est quoi? C'est d'identifier c'est quoi le problème pour savoir quelle formule je vais employer. Et là, tu as lu le problème et tu es certain qu'il faut que tu emploies une telle formule. Je prends la formule numéro 2. C'est certain que c'est la bonne formule. Et tu prends les données, tu prends les chiffres que tu as dans ton problème et tu les mets dans cette formule-là. Et tu appliques à la perfection la formule avec les chiffres que tu as. Et ça te donne une réponse à laquelle tu es convaincu. Tu reçois la note de ton examen, tu reçois la feuille de ton examen, tu vas voir le professeur, tu dis, mais je ne comprends pas. pourtant j'ai pris la formule, pourtant j'ai appliqué parfaitement la formule. Le professeur va dire, oui, tu as pris la formule, tu as mis les chiffres dans la formule, tu as bien ajusté la formule, mais le problème, c'est que tu n'as pas pris la bonne formule. OK? Je vous pose encore cette même question. Quel doit être l'objet de notre foi? Amen. Ayez foi en Dieu. On se rappelle les paroles de Jésus, si vous avez la foi, quoi? Comme un grain de sénavé. Un grain de moutarde, minuscule comme ça. Je ne pense pas que ça demande des heures et des heures et des heures de jeûne et de prière pour avoir une foi grosse comme ça. OK? Si vous avez la foi juste comme un grain de sénévé, hein? Donc le problème, c'est peut-être pas nécessairement notre foi. Mais je vais le répéter encore. Mais l'objet de notre foi. Le sur quoi on met notre confiance. C'est ça. Tu mets ta confiance sur le fait que tout va être parfait. Tu mets ta confiance sur le fait que tu as fait ta lecture quotidienne cette semaine, à tous les jours. Et qu'à ce moment-là, tu es en bonne position devant Dieu et tu es en bonne position que Dieu écoute tes prières. Non. On est sauvé par la grâce, au moyen de la foi. Et pas par les œuvres. Pas par les œuvres. Et la parole nous dit quoi? Justement, pour que personne ne se glorifie. Pour que personne ne puisse pointer les doigts vers lui-même et dire, voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai réussi à faire. C'est pour ça que telle ou telle chose sont arrivées dans ma vie, parce que j'ai réussi à faire ça. Personne qui est capable de sauver lui-même. Okay? Il n'y a personne qui mérite ça. Il n'y a personne qui a fait des œuvres pour mériter ça. Donc, pareillement, on a cette mesure de foi que la Bible nous dit, qu'on reçoit. Et cette foi-là, il a fallu l'exercer. Et comme je dis souvent, waouh, c'est probablement la chose la plus difficile à croire. Pourquoi? Parce que c'est la chose qui est probablement la moins facile à prouver. Essaie de me prouver ce matin que tu es sauvé. Essaie de me convaincre ce matin que tu es sauvé. Tu vas me dire quoi? Oui, mais c'est parce que j'ai fait ci, j'ai fait... Hein? On croit. OK? Même si des fois, comme j'ai dit, hein, on ne comprend pas. Même si des fois, on ne voit pas toujours l'exaucement. La réalité, c'est quoi? C'est que des fois, oui, il y en a des gens qui sont guéris. Donc, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Alors, on est capable de voir. On est capable de voir. Par exemple, quand je suis allé au Pérou avec John Smithwick, j'en ai vu. Ça s'est vu. On a prié pour les gens et les gens ont été guéris. Mais le salut, la Bible dit, crois, confesse, t'es sauvé. Hein? Est-ce que ça se voit? On a réussi à croire probablement la chose la plus difficile à croire. Mais on doute pour tout le reste. Okay? Croire que par une simple prière, ou plutôt par une action de foi, de confession, croire que je suis surnaturellement enlevé du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume de la lumière, croire que surnaturellement, au lieu d'être en route pour l'enfer, boum, le Seigneur me prend et m'amène avec lui sous ses ailes et que j'ai la vie éternelle. On en est venu à croire ça. On en est venu à croire à la fidélité du Dieu qui a écrit ça sur sa parole. Mais pour avoir accès au reste en lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais pour le reste, c'est difficile. En qui, en quoi est-ce que vous avez cru lorsque vous avez accepté le Seigneur? avait cru en Dieu. Si tu confesses le Seigneur Jésus, hein, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Tu as mis ta foi en Dieu. Donc, continue à mettre cette même foi-là en Dieu. Parce que c'est plus que croire. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi, et ils tremblent. C'est plus que croire que Dieu existe. Amen. Mais c'est de croire en quoi? C'est de croire qu'il est ressuscité des morts. C'est de croire que quand sur la croix Christ a dit « Tout est accompli », oui, Jésus a dit à ses disciples, il faut qu'il s'accomplisse de moi tout ce que la loi et les prophètes ont dit. Donc, non seulement tout est accompli de la loi et des prophètes, quand Jésus a dit tout est accompli, j'ai marché dans tout ce que la Bible disait de moi, tout ce qui a été annoncé de moi, j'ai marché dedans parfaitement, donc tout est accompli. Mais qu'est-ce qui était annoncé de lui? Il était annoncé de lui quoi? Il était annoncé de lui. Alors qu'il allait mourir, ressuscité, Dieu enverrait son esprit sur toute chair, sur tout homme. Amen. Et que par cet esprit-là, comme on a chanté si bien ce matin, nous avons la victoire. Parce que qu'est-ce que Romains 10, 9 nous dit lorsqu'il nous dit que tu seras sauvé? Il faut comprendre que ce mot-là, sauvé, c'est beaucoup plus que sauvé, arraché du feu. C'est beaucoup plus que sauvé. Ouf, je m'en vais plus en enfer. C'est comme si hein, je te sauve, je te sors de l'eau et je te mets sur le bord de la plage et maintenant, vas-y, débrouille-toi. Parce que souvent, c'est un peu cette mentalité-là qu'on a. C'est comme si on était en train de se noyer. Christ nous a tendu la main, nous a sauvés, nous a mis sur le bord de l'eau, le bord de la mer, a dit, c'est bon, maintenant. Ce mot-là, sauvé, est tiré du grec sozo. Et pourquoi on va dans le grec? Parce que l'original, le Nouveau Testament, a été originellement écrit en grec. Okay? Donc, des fois, lorsqu'on veut étudier la parole plus en profondeur, il y a certaines fois où on a besoin d'aller regarder la signification réelle des mots en grec. Et ce mot-là, sozo, du grec, sauvé du grec sozo, sozo signifie quoi? Signifie sauvé des péchés. Elle signifie également guéri. Signifie également délivré, libéré. Donc, si tu confesses le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, alors tu seras sauvé, guéri, délivré, libéré. OK? On croit, on met notre foi au fait que Christ est élevé et qu'il a vaincu la mort. OK? Pourquoi Jésus dit... Jésus dit quoi? Je ne sais plus si c'est l'homme avec la main sèche ou en tout cas un infirme qui vient devant lui. Jésus lui dit, « Va, tes péchés sont pardonnés. » Amen. Et là, à ce moment-là, les pharisiens, les hommes de loi sont vraiment outrés. Ils disent, « Mais qui es-tu pour pouvoir pardonner les péchés des gens? » Alors Jésus répond à ça et dit, « Qu'est-il plus aisé de dire? » En d'autres mots, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Dit que tes péchés soient pardonnés, ou bien, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est la même chose. Amen. C'est la même chose, parce que lorsque tu reçois le pardon des péchés, tu reçois la guérison. Tu reçois la délivrance, la liberté. Jésus a dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. Vous êtes captifs de quoi ce matin? La peur, de l'anxiété? Ce n'est pas juste libérer les captifs lorsqu'on pense à dépendance ou quoi que ce soit. Ce n'est pas juste la drogue, les substances comme ça ou quoi que ce soit. Okay? Il y a des gens qui, de l'extérieur, paraissent très bien, mais qui, en dedans, sont captifs. Mais avec le pardon des péchés, on a tout ça. C'est tout ce que le salut nous donne. Sauver, guéri, délivré, libéré. C'est pour ça que Pierre nous dit, nous avons, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Colossiens 2:10, car vous avez tout pleinement en lui. Je vous le dis là. Nous avons cru, je vous le répète, nous avons cru probablement à ce qui était le plus difficile de croire. Parce que vous allez rencontrer les gens, quoi? Les gens jusqu'à un certain point, amen, moi, il y a des gens pour qui j'ai prié, que je parlais du Seigneur, ils ne veulent rien savoir, j'ai prié pour eux, le lendemain, ils viennent me voir, ils disent, je pense que ça a marché ton affaire. Ils disent, ça fait du bien et tout ça. OK, oui, ça a marché, c'est bon. Après, on se revoit, on parle encore du Seigneur et tout ça. Me texte, écoute, prie pour moi, je vais avoir telle chose. Prie pour moi, je m'en vais dans telle affaire. Me texte, m'écrit, écoute, prie pour moi, de la prière, j'en veux en masse. Est-ce que tu es prêt à confesser le Seigneur Jésus? Hein? C'est probablement la chose la plus difficile à faire. Cette personne-là m'a dit, tu sais, je pense que tu as raison. Je crois que c'est Jésus, la réponse. Mais je ne suis pas prêt. Parce que, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, c'est parce que quand tu crois, le jour où tu crois en Dieu, ta vie ne peut plus être la même. Allô? Il a fait quoi? Il a fait exactement ce que Jésus a dit. Avant d'aller en guerre, regardons si tu as les effectifs qu'il faut pour vaincre. Il sait ce que ça va lui coûter. Il dit, je ne suis pas vrai. Il dit, j'ai tellement ri de certains de mes amis que je pourrais pas, là. On a sûrement fait l'acte de foi le plus difficile. De dire oui. De soumettre. De pas tout saisir à 100%, mais d'avoir ce témoignage à l'intérieur de nous qui fait comme oui, oui. Faut que je dise oui. De penser justement à toutes les personnes dans notre famille, dans notre entourage, de qu'est-ce qu'ils vont dire ou qu'est-ce qu'ils vont penser. Mais à un moment donné, c'est plus fort, c'est comme, oui. Oui, ah oui, tu crois à l'enfer, tu crois au ciel, tu crois que vraiment, là, c'est quoi, spirituellement, boum, ton esprit est changé d'un coup. C'est ça la nouvelle naissance, là. Oui. Les scientifiques aimeraient bien essayer de prouver ça. Trouver une formule qui explique la nouvelle naissance, ça serait beaucoup plus simple à recevoir, à comprendre. Non, ça se reçoit par la foi. Et encore une fois, c'est probablement la chose la plus difficile à croire. Mais la même foi qu'on a déployée au début, c'est la même foi qui va nous aider à continuer. Parce qu'encore une fois, cette foi-là, elle est quoi? Elle est ébranlée. Parce que c'est puissant. Parce que le jour, on y pense là, pensez à ça deux secondes. Le jour où tu réalises que ton salut signifie sauver, guérir, délivrer, libérer, Tu dis, oh, un instant, pourquoi est-ce que je vais me réveiller à chaque matin triste, là? Un instant, pourquoi est-ce qu'il faut encore que je vive avec les choses qui me sont arrivées dans le passé? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'accepte cette situation-là si la Bible me dit que j'ai été libéré de ça? Tu vas avoir des hommes et des femmes qui vont se lever, des hommes et des femmes qui vont oser aller se battre. Aller se battre, oui, parce que Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est un combat. C'est un combat, pourquoi? Parce que tout autour de nous essaie de te faire croire que ce n'est pas vrai ce que tu as reçu. Toute la douleur dans ton corps essaie de te faire croire que ce n'est pas vrai, que sozo, ça veut dire guéri. Toute l'anxiété, tous les problèmes autour de toi, ça essaie de te faire croire que c'est pas vrai que sozo, ça veut dire délivré. Toute la tentation qui revient quand tu te vois encore, oh, il faut encore que je lutte avec ça, te fait dire, tu vois, t'es pas libéré de ça. Mais vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? On va baisser les bras? Vous allez essayer, et là, hein, vous allez travailler dans votre couple, et vous allez dire, ah, tu vois, ça ne change pas, il n'y a rien qui change. Vous allez porter des CV, ben, j'ai besoin d'un emploi, et là, écoute, ça fait 10 CV que vous allez porter, il n'y a personne qui vous rappelle, ah, c'est ça, ça ne marche pas. Okay. La Bible nous dit, à propos du mariage, quoi? Que personne ne sépare ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. Et souvent, ce qu'on dit, c'est, hein, on se marie, pourquoi? Pour le meilleur et pour le... Okay. Mais la réalité, je vais vous dire, c'est quoi? C'est que dans tous les mariages que j'ai célébrés, j'ai jamais vu le pire dans les yeux d'aucun marié. OK? Jamais. Tout ce que je vois, c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est l'anticipation de la nuit de noces, c'est tout sauf le pire. Okay? On se marie pour le meilleur, mais on se sépare pour le pire. Et j'ai rarement vu des couples se séparer à cause du meilleur. Ça va tellement bien, je suis plus capable. Oh, Seigneur, sors-moi de ça. Too much love. Non. OK? Non. Mais pourtant, c'est à travers le pire. On voit le sérieux de tes vœux au départ. Qu'on voit la profondeur de ton engagement du départ. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés, la Bible nous dit. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi, le diable, qui rôle comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et... comme Pastor Ken disait tout à l'heure, des fois, ça... On n'a pas envie. Des fois, on n'a même pas envie d'être joyeux. OK? Des fois, on le sait, là, il y a une petite porte qui est là, on sait que ça prendrait juste ça pour changer notre attitude, mais ça ne nous tente pas. OK? Et des fois, oui, il y a des journées qui sont difficiles. Il y a des journées qui ne sont pas faciles. On passe à travers des situations que on aimerait bien se passer. Mais notre époux est quand même là. Dans le meilleur, comme dans le pire. Mais la question, c'est est-ce que nous, on va être là pour lui? Dans le meilleur, comme dans le pire. Est-ce que notre foi va être encore là? Dans le meilleur comme dans le pire. Parce que je vous le dis encore, votre foi ne sera sera pas beaucoup ébranlé dans le meilleur. Okay? C'est facile de croire que Sozo contient la guérison jusqu'au jour où tu tombes malade. Okay? C'est facile de croire que Sozo contient la prospérité jusqu'au jour où tu perds ton emploi. Et que tu te demandes qu'est-ce que je vais manger la semaine prochaine. Et c'est comme une arène, une espèce de cercle où l'ennemi veut nous garder là. Parce que tant et aussi longtemps qu'on est là, qu'on fait un pas, mais qu'on en recule deux, qu'on en fait un, qu'on recule deux, qu'on en fait un, qu'on recule deux, qu'on est toujours en train de se questionner, de s'inquiéter, de demander pourquoi, de dire qu'est-ce qui se passe, on tourne en rond, on a une victoire, yeah, on a une défaite. Oh, c'est plus que ça la vie. Quand. Non seulement c'est plus que ça la vie, mais c'est plus que ça la vie chrétienne. Là. OK? C'est temps de se lever, là. OK? Je ne sais pas si vous appréciez tant que ça, regarder l'ennemi ravager votre couple, ravager votre situation financière, ravager votre corps, ravager ci, ravager ça. OK? Et je ne vous connais pas, là. Je ne suis pas en train de dire que vous ne faites rien. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'y croyez pas. Mais la première chose à faire, c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui, c'est fini. OK? De dire aujourd'hui, c'est fini, là, je ne l'accepte plus. J'arrête d'apprendre à vivre avec. OK? J'arrête de me dire que c'est comme ça, il faut que je fasse avec, et je vais faire en sorte que ma vie soit le mieux possible avec cette chose-là. Et quand vous dites aujourd'hui, ça suffit, ça arrête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat commence aujourd'hui. OK? Ça veut dire qu'il faut pas être naïf, là. Dans quel sens? Dans le sens qu'il faut vous attendre à recevoir des attaques. OK? J'aimerais vous dire le contraire. Mais mes amis, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Le mensonge, la tromperie, l'inquiétude, quoi que ce soit, il faut vous attendre à recevoir des attaques. Et moi, quand je reçois un coup, je me dis, OK, c'est bon, je ne l'avais pas vu celle-là, je n'avais pas vu venir celle-là, bravo. Mais je me relève. Je dis, la prochaine fois, inquiète-toi pas. Tu ne m'auras pas deux fois avec le même coup. OK? Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et Christ a vaincu, et maintenant, c'est à nous, par la foi, de vivre dans cette victoire, de consolider cette victoire. Et oui, la joie, c'est un choix, tout le reste aussi. L'attitude que vous allez décider d'avoir, c'est un choix. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, que ce n'est pas de ma faute? Voici qu'est-ce qui arrive. OK, c'est vrai. On n'est peut-être pas toujours au contrôle de tout ce qui arrive, des circonstances qui arrivent. Mais tu es toujours au contrôle de la réaction que tu décides d'avoir, de l'attitude que tu décides d'avoir. Quand la tempête arrive, tu n'étais peut-être pas au contrôle du fait de dire est-ce qu'il pleut ou pleut pas. Mais tu es en contrôle de ton attitude et de ta réaction pendant la tempête. Okay? C'est toi qui décides, est-ce que je dors ou je panique? Hein? Quand tu tournes sur ton lit, là, à ruminer, à un moment donné, il faut que tu dises, là, c'est temps de dormir. C'est la même chose. Mais, des fois, ça paraît trop simple. Des fois, on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Il y a sûrement quelque chose qu'il faut que je fasse de plus. La Bible te dit, aie foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Amen. C'est là que ça commence. C'est là que ça se termine. Commence dans la foi, ça se vit dans la foi et ça termine dans la foi. Parce que lorsqu'on regarde dans Hébreux 11, la Bible nous parle de certains personnages qui sont morts dans la foi, mais pourtant n'ont pas touché à leur promesse. Ils sont morts dans la foi, mais n'ont pas vu et n'ont pas touché à leur promesse. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'ils sont morts dans la foi. OK? Donc, ça va plus loin que ça, là. Ça va plus loin que les promesses. C'est Dieu. L'auteur, Christ l'auteur, les rémunérateurs de notre foi. Amen. Je ne sais pas si vous voulez venir, s'il vous plaît. Et pourtant, la foi, c'est un sujet que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, est plus que primordial et vital. OK? C'est vital. Et ce matin, je vous pose encore une fois cette question-là. Quel est l'objet de votre foi? Sur quoi basez-vous votre vie chrétienne? Est-ce que vous basez votre vie chrétienne sur le nombre de promesses que vous avez, sur le nombre de miracles que vous voyez, sur le nombre de choses, de prières qui sont exaucées, sur le nombre de... je ne sais pas quoi. Là. Vous basez votre vie chrétienne sur Dieu, sur Christ, sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Parce qu'une fois qu'on est basé sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, tout le reste est inclus dedans. Mais trop souvent, on part à courir après certaines choses individuelles. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, il me faut absolument ceci. Mais la Bible nous dit, cherche Christ et tu vas avoir tout ça. Oui, mais si Dieu m'oublie, j'ai besoin absolument de ça, Seigneur, j'en ai besoin. Cherche Christ, reste en Dieu, aie foi en Dieu. Et tu, non seulement tu vas avoir ça, mais tu vas avoir tout le reste. Si. La graine s'est levée et les enfants. Si vous n'êtes pas comme des enfants, qu'on est capable d'accéder au royaume avec un cœur d'enfant. Mon garçon, il ne sait pas lire, là. OK? Mais il croit tout ce que j'ai dit, ou presque. Parce que d'habitude, son réflexe est maman. Est-ce que c'est vrai? Si maman dit oui, c'est bon. Parce que papa, lui, il fait toujours des jokes. J'ai perdu toute crédibilité. cœur d'enfant qui va dire oui, qui se casse pas la tête à savoir qu'est-ce que je vais faire nécessairement pour impressionner mon père ou quoi que ce soit. C'est juste, j'ai envie d'être avec mon père. Je cours dans les bras de mon père. Et parce que je cours tout simplement dans les bras de mon père, je reçois tout ce que mon père a à me donner. Tout l'amour dont j'ai besoin est là. Et avoir la foi en Dieu, c'est tout simplement ça. C'est de courir tout simplement vers les bras de notre père. Pas courir avec inquiétude. Parce que des fois, on prie avec inquiétude. On pense prier avec foi, mais dans le fond, on a toujours cette pensée-là. Là, oui, mais si ça ne marche pas, Seigneur, j'ai besoin de ça. Toi, tu vois, Seigneur, ma situation. Hein? Non, viens tout simplement dans les bras de ton Père. Prie tout simplement, loue-le tout simplement. Ne croyez pas que, hein, faites pas comme les païens qui croient qu'à multipliant les vaines paroles, ils seront exaucés, la Bible nous dit. Ce n'est pas une question de ce que tu dis. Ce n'est pas une question de trouver le verset exact, le mot parfait pour prier devant le Seigneur, non. C'est une question de cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde à l'apparence, Dieu dit. Oh, à l'apparence, au cœur, je m'excuse. Je regarde au cœur. Hein? J'ai changé le verset un peu, hein? Je regarde au cœur. Un cœur pur, un cœur honnête, un cœur sincère, un cœur qui n'a pas essayé là, qui n'a pas essayé d'en faire plus, qui n'a pas essayé de montrer à Dieu qu'il est digne de recevoir quelque chose que ce soit, de dire, ah oui Seigneur, écoute, j'ai fait ci, ah Seigneur, est-ce que je suis assez digne maintenant pour non seulement me présenter devant toi, mais digne en plus pour recevoir quelque chose de toi. Okay. Un cœur simple, un cœur pur, un cœur qui a tout simplement envie et besoin de connaître son Père. Vous savez que les gens qui ont été délaissés, adoptés ou quoi que ce soit, il y a toujours cette envie-là, ce désir-là, ce besoin-là qui reste en eux de découvrir c'est qui son Père, de découvrir c'est qui sa mère. Amen. Si tu as grandi avec un parent ou l'autre qui te manquait, il y a toujours cette question-là, il y a toujours ce désir-là. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre Père, c'est notre Père céleste, on doit avoir ce désir-là de le connaître. Parce que Jésus dit quoi? Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. C'est ça, la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la même chose que cette vie-là, sozo, c'est cette vie-là, shalom, rien qui manque, rien de brisé, que tout est là. C'est ça la vie éternelle. Cette vie éternelle-là que où on garde notre confiance en Dieu, peu importe. Et lorsque tu crois en Dieu, c'est pas qu'il t'arrive plus rien là. C'est plutôt que peu importe ce qui t'arrive, tu restes ferme, tu restes en paix. Et parce que tu restes en paix, parce que tu mets ta foi en Dieu, il va te sortir de ça. C'est ça la vie chrétienne. Parce que des fois, on pense que ça va faire en sorte qu'on évite tout. Mais la Bible nous dit, il pleut sur le juste comme sur l'injuste. Là. Ce matin, il y avait de la neige sur mon auto aussi. Ouais. Okay. Et pourtant, j'ai prié fort. OK? Non, mais sérieusement, je pense qu'il y a juste, il y a des gens qui ont besoin de juste relax. Relax. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est plus que capable. Relax. OK? Qui, par l'inquiétude, peut rajouter, hein? une coudée à sa vie. Je n'ai connu personne qui était capable encore. On relaxe. Et on va dire ensemble ce matin, relax. Regarde ton voisin, dis relax. Ton pied qui shake là, ok? Relax. Faut que tu te décides, ok? C'est soit tu me le laisses, ou soit tu le prends, ok? De lui demander, puis de le reprendre après. OK? Relax. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Pas parce que tu penses qu'il ne se passe rien, qu'il ne se passe rien. Pas parce que tu vois rien, qu'il ne se passe rien. OK? Ça fait combien de fois tu lui as demandé? Hein? Enlèvement. OK? Laisse-y pour de vrai. Tu vas voir. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. OK? Il est encore là, tu sais. Il dit, il est encore là. OK? T'as pas abandonné. Mais il faut que tu te rappelles de ça. OK? Peu importe ce qui se passe ou qui va se passer, il est toujours là. Il n'a pas changé. OK? Ce que j'entends, c'est ce que je reçois, c'est qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que tu cherches? Okay. Qu'est-ce que tu cherches? Votre nom, c'est quoi, pardon? Oui. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour Sylvain. Alléluia. Coria Charabasanto. Merci pour ta présence dans sa vie, Seigneur. Oui. Vous cherchez quelque chose. Vous attendez quelque chose. Et pourtant, c'est comme si vous le savez. Qu'est-ce que vous devriez faire? C'est comme si vous le savez où est-ce qu'elle est, cette réponse-là. Mais qu'à quelque part, je vois que l'image que j'avais, c'était quelqu'un dans une pièce où il y a plein de portes. Puis c'est comme si vous saviez quelle porte emprunter, mais que vous essayez toutes les autres. Okay? Mais le Seigneur, il dit, je suis là. Puis j'attends. Que le jour serait prêt à ouvrir cette porte-là, il va être là. Que tous ceux qui cognent à la porte, il ouvre. Amen. La vie chrétienne, il n'y a rien de plus beau pour moi. Okay? C'est une aventure qui n'est pas toujours facile, mais la réalité, c'est quoi? C'est même si vous êtes en dehors de Christ, même si vous êtes en dehors de ces quatre murs-là, la vie, c'est pas toujours facile non plus. Mais nous avons le privilège d'avoir le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre avec nous, en nous, qui nous aide à passer à travers toutes circonstances et qui nous, non seulement nous aide à passer à travers, mais nous aide à en ressortir victorieux. Donc ce matin, on a lu en Romains 10, au chapitre, ou plutôt versets 9 et 10, qui nous disait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Le premier salut dont il s'agit ici, c'est quoi, évidemment? C'est le salut, le pardon des péchés. Le pardon des péchés qui rétablit cette communion-là avec Dieu. Qui nous donne accès à la vie éternelle. Que Dieu, non seulement efface, mais la Bible nous dit, oublie. Oublie nos péchés, oublie nos manquements. Parce que c'était ces péchés-là qui nous empêchaient d'avoir une relation avec Dieu. Mais Christ les a croués sur la croix, en a pris, s'en est occupé. Donc maintenant, nous avons libre accès au Père, libre accès à Dieu. Et la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de croire et de dire oui. Parce que c'est une chose de croire. Mais après, il faut dire oui. OK? Il faut dire oui. Il faut dire oui, je le veux. Oui, je veux que Christ soit le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui a jamais dit oui de cette manière-là, mais je vous donne l'opportunité de le faire avant de quitter. Et comme Pasteur Ken a dit tout à l'heure, aujourd'hui est le jour du salut. Ce n'est pas demain, après-demain, vous ne savez pas ce qui va arriver demain ni après-demain. OK? Ce n'est pas la pression. C'est tout simplement s'il y a cette conviction-là dans votre cœur aujourd'hui, dites oui aujourd'hui. Okay? Dites oui aujourd'hui. Donc, je vais tout simplement compter jusqu'à 3. Et je vais vous demander de faire oui un acte de foi, un acte qui peut peut-être être gênant et tout ça, mais à 3, je vais vous demander de lever la main. Pourquoi? Parce que j'aimerais prier avec vous par la suite. On aimerait tous prier avec vous ensuite. Et vous accompagner là-dedans. Donc, s'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire oui, Juste lever la main. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour la première fois qui va accepter le Seigneur Jésus dans sa vie? Alléluia. Oh, alléluia. Donc, on va se lever si vous voulez bien. Amen. On va terminer en prière. Donc, Seigneur, on te remercie. On te remercie pour cette foi que tu nous as donnée, Seigneur. Que c'est même un fruit de l'Esprit, Seigneur. Et ce matin, on veut quitter tout simplement en prenant la décision de mettre notre foi en toi. Simplement. Simplement comme un enfant, Seigneur. Merci parce que tu es notre Père, que tu nous as aimés, que tu as envoyé ton Fils unique pour nous en témoignage de cet amour. Et qu'avec ton Fils unique, tu as donné tout ce dont nous avons besoin. Donc, on te remercie aujourd'hui pour le salut. Oui, le salut qui est pardon de nos péchés, le salut qui nous donne la guérison, le salut qui nous donne la délivrance, le salut qui nous apporte la liberté, le salut qui nous libère de tout ce qui nous rend captifs. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, c'est avec foi. C'est avec foi qu'on veut marcher à tes côtés et qu'on refuse de laisser les mensonges de l'ennemi nous voler, nous priver de ce que ton précieux sang a déjà pourvu pour nous. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Soyez bénis, passez une bonne semaine. On n'oublie pas mercredi soir, John Smith Week, 19h. Amen.
Reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qui m'importe l'adversaire, chasse la crainte. Il est vaincu, au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur.